Audible Studio présente « Nuit d'été » de Dan Simmons, traduit de l'anglais États-Unis par Evelyne Gauthier, lu par Mathieu Dahan. Chapitre 1. Old Central School, la vieille école du centre, se dressait avec arrogance, protégeant jalousement ses secrets et ses silences. 84 ans de poussière de craie flottaient dans les rares rayons de soleil et l'odeur du vernis, appliqué année après année sur les escaliers et les parquets, imprégnait l'air confiné d'une odeur de cercueil. Voilées et déformées par l'âge et la pesanteur, les vitres des hautes fenêtres teintaient l'atmosphère d'une lassitude couleur sépia et les murs étaient si épais qu'ils semblaient absorber tous les bruits. Les couloirs et les escaliers renvoyaient bien l'écho des pas, mais dans les ténèbres, les sons paraissaient assourdis et sans rapport possible avec quelque mouvement que ce soit. Le temps passait lentement à Old Central, peut-être même n'avançait-il pas du tout. La première pierre de l'établissement avait été posée en 1876, l'année du massacre de Little Big Horn, loin à l'ouest, et l'année aussi où, loin à l'est, à Philadelphie, les visiteurs de l'exposition du centenaire avaient pu voir le premier téléphone. Mais Old Central se trouvait dans l'Illinois, à mi-chemin entre ces deux événements mémorables et à mille lieues du cours de l'histoire. Au printemps 1960, l'école ressemblait aux enseignants qui s'y étaient succédés. Trop vieille pour continuer, mais trop orgueilleuse pour prendre sa retraite, toujours debout par la force de l'habitude et la volonté farouche de ne pas capituler. Vieille fille stérile, elle avait emprunté les enfants des autres pendant quelques 8 décennies. Des fillettes qui avaient joué à la poupée dans l'obscurité des couloirs et des classes étaient mortes en couches. Des garçons qui avaient été consignés tard les soirs d'hiver dans les salles silencieuses pour avoir descendu en criant les escaliers avaient été, des années plus tard, ensevelis dans des endroits que ne mentionnaient même pas leurs livres de géographie. San Juan Hill, Bellowwood, Okinawa, Omaha Beach, Porkchop Hill ou Incheon. À l'origine, l'école était bordée de beaux arbres et durant les journées chaudes de mai et de septembre, les ormes les plus proches ombrageaient agréablement les classes du rez-de-chaussée. Mais, au fil des ans, ces arbres moururent et la ceinture d'ormes géants qui entourait le bâtiment telle des sentinelles silencieuses se transforma, l'âge et les maladies aidant, en une armée de squelettes. On en avait coupé et déblayé quelques-uns, mais la plupart étaient encore debout et l'ombre de leurs branches desséchées s'étendait au-dessus du terrain de sport et des aires de jeu, comme des mains noueuses cherchant l'école à tâtons. Si par hasard quelques voyageurs s'aventuraient dans la petite ville d'Elmhaven, quittaient la route goudronnée et dépassaient les deux pâtés de maisons qui cachaient l'école, ils risquaient de prendre cette bâtisse pour un palais de justice atteint de gigantisme ou tout autre bâtiment administratif aux dimensions aussi prétentieuses qu'absurdes. Dans ce bourg languissant de quelques 1800 habitants, à quoi pouvait bien servir ce colossal édifice planté au milieu d'un immense terrain vert? Puis le voyageur remarquait les équipements sportifs et comprenait qu'il se trouvait en face d'un établissement scolaire. C'était une bien bizarre école, avec ce clocher baroque en cuivre et bronze couvert de verre de gris, perché au sommet d'un toit noir très pentu. Des arcs en pierre de style roman, revus et corrigés par Richardson, ondulaient comme des serpents au-dessus des fenêtres. Ici et là, des vitraux ronds ou ovales suggéraient un croisement entre une école et une cathédrale, tandis que des chiens assis sortaient de l'avant-toit comme dans un château et que d'étranges volutes semblables à des enluminures surmontaient les embrasures des portes. Mais ce qui troublait le plus l'observateur, c'était ses proportions massives, déplacées, voire même quelque peu menaçantes. Old Central, avec ses 3 rangées de fenêtres, ses chiens assis et son avant-toit en saillie couronné d'un clocher d'un goût douteux, semblait une bien trop grande école pour un bourg aussi modeste. Si notre voyageur avait quelque culture architecturale, il s'arrêtait net dans la rue silencieuse, descendait de voiture, regardait bouche bée l'édifice et prenait une photo. À ce moment-là, il remarquait que les hautes fenêtres étaient de grands trous noirs conçus plutôt pour absorber la lumière que pour la faire entrer ou la réfléchir, et que les touches de style roman revues et corrigées par Richardson, Second Empire ou pseudo-italienne, avaient été plaquées sur un bâtiment d'un style grossier et banal que l'on pourrait qualifier de gothique scolaire du Midwest. Le résultat final n'était pas un édifice étonnant, ni même une curiosité architecturale, mais un entassement de pierres et de briques aussi monumental que dément, surmonté d'un clocher dessiné de toute évidence par un malade mental. Si le visiteur décidait d'ignorer le sentiment de malaise que procurait un tel spectacle, ou s'il refusait d'y céder, il pouvait essayer de se renseigner et même aller jusqu'à Oak Hill, chef-lieu du comté, pour y consulter les archives. Il apprenait alors que quelques 80 ans auparavant, un esprit brillant avait eu une idée de génie. Doter le comté de 5 grands établissements scolaires. L'école du Nord-Ouest, l'école du Nord-Est, l'école du Sud-Ouest, l'école du Sud-Est et l'école du Centre. Celle-ci avait été la première et la dernière à voir le jour. Grâce à une ligne de chemin de fer, maintenant quasi inutilisée, et à l'arrivée massive d'immigrés amenés de Chicago par d'ambitieux urbanistes, Elm Haven était dans les années 1870-1880 une ville plus importante qu'en 1960. Le bourg comptait alors 4300 âmes, et le juge Ashley, le millionnaire à qui revenait la paternité de ce projet grandiose, avait prédit que la ville dépasserait bientôt Peoria et rivaliserait même un jour avec Chicago. Soutenu par les habitants, il avait insisté pour que l'école soit assez grande pour pouvoir accueillir plus tard les générations d'enfants de plus en plus nombreuses qui ne manqueraient pas d'habiter le comté de Crèvecœur. On avait donc ouvert 6 classes primaires et au second étage, des classes secondaires utilisées seulement jusqu'à la Grande Guerre. Le bâtiment abritait aussi la bibliothèque municipale et il restait encore assez d'espace pour héberger un enseignement supérieur dès que le besoin s'en ferait sentir. Mais le besoin ne s'en était jamais fait sentir, ni dans le comté de Crèvecœur, ni à Elm Haven. La seigneuriale demeure du juge Ashley, au bout de Broad Avenue, avait été réduite en cendres après la faillite de son fils lors de la récession de 1919. Old Central était donc restée une école primaire, fréquentée par un nombre de plus en plus réduit d'élèves à mesure que les écoles intercommunales s'ouvraient ici et là. Lorsqu'en 1920, une véritable école secondaire s'ouvrit à Oak Hill, le second étage n'eut plus aucune utilité, il fut fermé et livré aux ténèbres et aux toiles d'araignée. La bibliothèque municipale quitta la galerie entre le rez-de-chaussée et le premier étage en 1939 et les étagères vides le long de la mezzanine ne dominaient plus que les escaliers monumentaux, les catacombes du sous-sol et quelques élèves circulant dans les couloirs sombres, tels des réfugiés dans une ville abandonnée après quelque incompréhensible catastrophe. Finalement, à l'automne 1959, la nouvelle municipalité et les autorités académiques du comté de Crèvecœur avaient décidé qu'Old Central n'avait plus aucune raison d'être. Cette monstruosité architecturale coûtait, même réduite à l'état de coquille vide, trop cher à chauffer et à entretenir. À partir de la rentrée suivante, les 134 derniers élèves fréquenteraient la nouvelle école construite près d'Oak Hill. Mais en cette fin de printemps 1960, dernier jour de classe, quelques heures avant que ne sonne l'heure de sa retraite définitive, l'école se dressait avec arrogance, protégeant jalousement ses secrets et ses silences.